Comment enchaîner la suite de sa préparation marathon après un semi-marathon? Et au fait, est-ce vraiment nécessaire de courir un semi-marathon quand on prépare un marathon? C'est la question qui ne m'a pas été posée cette semaine, mais qui s'est imposée à moi et à Laure en regardant un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster's Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et là, la question n'a pas été posée dans le Hamster's Running Club, mais en fait c'est une observation que j'ai faite. Vous avez été beaucoup le week-end dernier à courir le semi-marathon de Paris, vous allez être beaucoup à courir d'autres semi-marathons, moi-même je vais courir un semi-marathon la semaine prochaine, et certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, courent un semi-marathon pour préparer votre prochain marathon. C'est ce que j'avais fait moi-même en 2019, avant mon marathon de Paris, j'avais couru le semi-marathon de Vichy. Et j'ai aussi vu dans des publications sur Instagram et des messages que j'ai reçus dans des discussions, dans des questions, que reprendre la préparation marathon après ce semi n'était pas simple. J'ai constaté des messages sur le manque d'énergie, sur la fatigue, sur une certaine lassitude, sur des programmes qui semblent très exigeants, sur des petits bobos, même sur la maladie, sur des entraînements ratés, sur un petit peu se être dépité en disant j'arrive pas cette semaine, ça avance pas comme je veux, je me sens fatigué ou quoi que ce soit. J'en ai parlé alors et nous avons décidé de faire un épisode spécial pour vous aider à gérer cet enchaînement. Le semi-marathon, puis la dernière ligne droite de la préparation, marathon. Alors, faut-il forcément courir un marathon? Quelle allure? Quel objectif? Comment récupérer la semaine qui suit? Faut-il supprimer des séances quand on se sent fatigué? Et dans ce cas, quelle séance doit-on décaler ou supprimer carrément? Et quel est l'objectif de ces dernières semaines juste avant le marathon? J'espère que ces conseils vous serviront en tout cas à gérer cet enchaînement s'il est à votre programme. Et avant, j'ai fait une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub en plus de mes programmes, de mes coachings qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de monde. Allez, c'est parti!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Écoute, ça me fait encore bizarre de te retrouver là, au samedi matin. Alors bon, on enregistre un vendredi midi, mais ça me fait bizarre de me dire qu'on va encore enregistrer deux épisodes ensemble cette semaine. On va finir par y prendre goût, je crois.
Ouais, écoute, moi j'y prends toujours goût sur l'histoire, parce qu'en plus c'est des questions, je garantis, celle-ci elle vient pas directement du Hamster's Running Club. Alors ce matin il m'a posé des questions dans le Hamster's Running Club, j'ai dit comment je vais répondre à certaines de ces questions-là. Et là, aujourd'hui c'est intéressant parce que le but du jeu pour nous aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet, et il y a plein de gens qui sont dedans, c'est ces fameuses préparations marathon avec ces enchaînements de week-end ou des fois il y a un semi-marathon qui est au milieu, comment on enchaîne derrière, comment on repart, comment on récupère, la semaine qui se passe derrière va être bien enchaînée. Parce que j'ai vu plein de gens après le semi-marathon de Paris là qui ont eu un peu de mal quand même, ils ont eu une semaine compliquée pour certains.
Alors après, ouais, c'est vrai que tu m'as partagé des choses que tu as vues et qui effectivement nous ont interrogés. On s'est dit, tiens, ça peut être l'occasion de faire un conseil là-dessus. Qu'est-ce qui t'a vu qui t'a interrogé? T'as vu des gens qui avaient des séances, qui reprenaient des semaines entre guillemets type prépa après un semi. Alors peut-être qu'on pourrait déjà simplement faire un tout petit point sur pourquoi on fait un semi dans le cadre d'une prépa marathon et est-ce que c'est indispensable? C'est déjà une première question, qu'est-ce que t'en penses?
Moi je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que ça paraît être un passage obligé. En tout cas.
Toi, quand t'avais fait ton marathon, est-ce que t'avais fait un semi?
Oui, j'ai fait le semi de Vichy, okay. qui est un mois avant le marathon de Paris. Cette année, je ferai le semi de Vichy sans faire le marathon de Paris derrière. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de gens au semi de Vichy qui faisaient le marathon derrière. Il est placé idéalement pour ça, comme le semi-marathon de Paris à peu près placé pour ceux qui vont faire le marathon de Paris derrière.
Alors moi, j'avais préparé un marathon en 2019. Ouais, ou 20, juste avant le Covid, 2019. Et en fait, effectivement, je me souviens avoir utilisé le marathon de Vichy pour faire ma séance. Donc en fait, il y a deux écoles. J'en avais déjà parlé un petit peu dans un épisode, je sais plus trop lequel, mais globalement, un épisode de la Minute Perf, soit il y a des plans, et la majeure partie des plans se structure quand même avec un semi à environ un mois de l'échéance. Soit il y a des plans, en fait, qui font une sorte de séance un peu type, un peu test, à ce moment moment-là. La question aussi, c'est donc, OK, on peut faire un semi, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans le semi? Est-ce qu'on fait le semi à allure semi, donc globalement à 100% de son potentiel sur semi, ou est-ce qu'on fait le semi en utilisant des allures marathon et en introduisant en fait un échauffement, une récup, donc finalement un volume et un temps d'effort? Moi, c'est exactement ce que j'avais fait dans ma prépa, c'était en 2019, prépa du marathon d'Annecy en 2019. Je m'étais échauffée et ensuite j'avais fait 21 km à allure marathon. Donc à l'époque, mon allure cible, c'était 4,45. Et ensuite, j'avais refait une récup. Donc ça m'avait fait une sortie de, je crois, de plus de 2 heures. Et donc, en fait, ça, moi, je trouve ça intéressant. Parce que faire un semi pour faire un semi à l'allure semi, ben, ça va créer énormément de dégâts sur le plan physiologique, mécanique, musculaire. Et on va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Et donc, ben, justement, c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que c'est important de reposer les bases, de savoir est-ce que vous avez couru une séance spécifique ce week-end, est-ce que vous avez couru un semi à allure semi, ou est-ce que vous avez couru un semi dans le cadre d'une prépa, on va dire, marathon, en ayant introduit le semi à des allures marathon. Aussi, il y a des coachs qui donnent des allures progressives pour le semi, donc faire une partie du semi allure marathon et la deuxième partie allure semi. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est très bien comme type de... Voilà, donc d'où notre question du jour, qu'est-ce qu'on fait derrière ça à un mois environ de l'échéance. Donc là, on est à presque un mois du marathon de Paris, un peu moins maintenant. Et du coup, effectivement, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas, Bertrand, tu veux peut-être ajouter quelque chose?
Non, mais moi, c'est vrai que j'ai été... Moi, je sais, quand j'avais fait le semi, j'ai eu un souci, c'est que je m'étais un peu enflammé. J'étais parti sur l'histoire de faire à l'allure marathon, et puis je m'étais un petit peu enflammé, j'ai fait plutôt une allure un peu semi, etc. Donc, il y a, je pense, le tempérament des uns et des autres. Je crois aussi que j'ai vu, en fait, des gens qui d'un coup se disent, ah, bah, tiens, il y a le semi de Paris, j'ai pu avoir une invitation, j'ai eu un dossard, c'était pas prévu, ça se rajoute au dernier moment, ça modifie un petit peu les plans, etc. Je pense qu'il y a quand même cette question-là qui va jouer chez certaines personnes. Et puis, effectivement, il y a une vraie question. C'est vrai, à quelle allure on a couru son semi, comment on le fait. Moi, c'est vrai que j'ai vu des gens qui, derrière le semi, ont enchaîné en disant, enfin, je me suis dit, la séance qu'ils font derrière, c'est pas de la récup. C'est ça qui m'a vraiment posé question, c'est de me dire, mais si tu fais un semi et t'en sors, tu dis que je suis un peu lessivé, que derrière, dès le lundi, t'enchaînes sur une séance qui semble pas très commode, très facile à faire passer déjà en temps normal, là, je me suis dit, ça charge un petit peu la barque.
Ouais, alors tout à fait. Donc, on va partir du principe que les gens qui ont fait le semi, ils l'ont fait soit en mode semi, à fond, soit dans une sortie hybride marathon ou allure marathon. Donc, en fait, on est vraiment sur, on va dire, une sortie qui est longue, avec de l'intensité. On va vraiment considérer que ce ne sont pas des gens qui ont fait un semi juste pour le faire et regarder un petit peu le paysage. On imagine que les gens qui font ça... Donc effectivement, déjà, moi, la première chose qui me paraît très évidente après une séance comme ça, le lundi, c'est soit de faire une récup active de type vélo, piscine, ou éventuellement en course. Alors attention, hein, c'est bien en fonction du niveau de chacun et du nombre de sorties dans la semaine. C'est sûr que si vous êtes à 3 ou 4 sorties pour préparer le marathon, bah, ça serait quand même pas pertinent de mettre une sortie le lundi en course à pied. Vous savez ce qu'on pense de l'entraînement croisé, donc bah clairement l'entraînement croisé le lundi, ça peut être vraiment intéressant pour aider le corps à encore éliminer les déchets, restructurer un petit peu les fibres musculaires qui ont été cassées. Pourquoi la récup, ça favorise ça? Bah en fait ça va simplement apporter plus d'oxygène, plus de sang, donc plus de micronutriments aux muscles, et donc ça va faciliter en fait la cicatrisation des fibres qui ont été abîmées. Donc la récup active le lendemain, le lundi, elle est vraiment importante. Donc, si vous êtes sur 3 à 4 séances, comme je le dis, ben, moi, je pense que voilà, de la natation ou du vélo, qui sont des sports qui n'ont pas d'impact, c'est très intéressant parce que ça va limiter de recréer, entre guillemets, des micro-lésions sur des micro-lésions. Après, il y a des gens qui ont des plans d'entraînement à 6-7 séances dans la semaine. Il y a des gens hein, qui préparent des marathons avec pas de jour de récupération ou un jour de récupération. Et ou qui ont une sortie de type footing très cool en mode récupération. Donc à la limite, moi ça me choque pas en fait le lundi qui est Une sortie de type footing 45, quelques lignes droites, puis surtout un petit peu de muscu, par exemple, de renforcement physique général avec des abdos, etc., ce genre de choses. Ça me pose pas trop de problèmes et ça me choquerait pas. Toi, ce que tu me disais, Bertrand, c'est que tu as vraiment vu des personnes qui, dès le lundi ou le mardi, tu m'as dit, hein,
oui.
Mettaient des allures avec du fractionné, donc avec des allures rapides, etc., etc. Alors, pourquoi déjà, un, c'est pas intéressant, et deux, ça peut être même carrément contre-productif. Comme on l'a dit, hein, le corps a pris un semi, il y a eu du volume, il y a eu de la distance et de l'intensité, donc clairement, on a affaibli l'organisme sur le plan physiologique déjà, global, mais aussi sur le plan musculaire. Donc, recréer de la contrainte derrière, ça peut être intéressant, parce qu'effectivement, le principe de l'entraînement, c'est ça, hein, c'est d'épuiser les ressources et de travailler sur un niveau de ressources qui est un petit peu épuisé. Sauf que là, on travaille plus sur un niveau de ressources un peu épuisé, on travaille sur un niveau de ressources clairement assez bas, on va dire. Et donc, moi, je pense que c'est prendre le risque de se blesser. Peut-être pas dans l'instant, hein. Peut-être qu'on sentira pas la blessure dans l'instant, mais clairement, je pense que c'est créer beaucoup de fatigue, beaucoup de contraintes sur un organisme qui est pas tout à fait prêt à endosser cette contrainte. La deuxième chose, c'est qu'en fait, de toute façon, la séance qui va suivre, elle sera biaisée. Parce que les allures, on pourra pas les tenir en fait, tout simplement. Parce que, alors, sauf si on est sur, alors il y a des séances qui sont intéressantes de type, j'en ai pas parlé, 45-15 ou 40-20. Moi, j'aime bien programmer ce type de séance à mes athlètes sur de la récup, le lundi ou le mardi qui suivent, parce qu'en fait, c'est de l'aérobie, c'est juste de l'aérobie un peu dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on va remettre un peu d'attitude dynamique, on va remettre un petit peu de volontairement aussi pour demander au corps de remettre du dynamisme et de surtout pas s'endormir dans une allure un peu plan-plan du footing. Donc souvent, ce que j'aime bien faire moi en programmation, c'est des footings, alors ça dépend des individus, mais 20 à 45 minutes de 30 à 45 minutes de footing, et derrière des 45-15, donc 45 secondes rapide dynamique et 15 secondes de récupération, ou 40-20, ça dépend, je joue sur les deux. L'avantage de ce type d'effort, c'est qu'on voit bien que la récupération, elle est inférieure au temps d'effort, donc on va pas être du tout sur un truc de type 30-30 avec de la VMA, de la PMA à fond. Non, pas du tout. En fait, comme cette récup, elle est très courte, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'entraîne, c'est que derrière, ben, ça conditionne la vitesse de course. Parce que de toute façon, on peut pas aller à fond sur 45 secondes si on a que 15 secondes de récupération. Et donc, en fait, ça conditionne largement et ça permet simplement d'être dans cette attitude active de récupération. De sollicitation de l'organisme sans pour autant se blesser, parce que de toute façon on peut pas aller très vite. Donc ça peut être intéressant. Par contre, avoir une sortie dans laquelle on a des allures à respecter, il y a deux choses. Soit on les respecte et on va au casse-pipe, souvent bah la blessure, soit on les respecte pas et du coup quid de la séance. Ça me fait écho à une discussion que j'ai eue avec une de mes personnes que j'entraîne là, récemment. Pour elle, cette personne, une bonne semaine, c'était une semaine dans laquelle on suivait le plan. Et moi, j'ai tendance à dire qu'une bonne semaine, c'est pas une semaine dans laquelle on suit le plan. C'est une semaine dans laquelle on a fait un volume d'entraînement, une charge d'entraînement qui est totalement en accord et en adéquation avec les éléments de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, là, en l'occurrence, clairement, un coach qui programme une semaine très très dure après un semi, déjà faut s'interroger sur la pertinence du coach peut-être. Mais en tant que tel, même si la semaine elle était un peu plus légère, elle était un peu plus light, on va expliquer pourquoi après. Même si elle était plus light, le but c'est pas de faire la semaine. Le but c'est qu'à un moment donné, on réadapte, on réajuste, on réinterroge le niveau de contrainte qu'on doit faire peser en fonction de la fatigue de l'athlète, mais ça peut être aussi une fatigue intellectuelle. Hein. Quand on fait un semi, c'est dur et long. Hein. Il y a 21 km à tenir à la même allure. C'est compliqué. Hein. On est sur la moitié du temps d'effort du marathon. Bertrand, il commence à flipper pour le 19. T'inquiète pas, Bertrand, le 19, j'ai pas les jambes, donc on va y aller tranquille. Pourquoi la semaine qui suit un semi-marathon, au milieu, c'est une semaine qui est light? On a parlé hein, des macrocycles, mésocycles et microcycles. Les microcycles, on peut considérer que ça peut être une semaine, parfois c'est 2-3 semaines. Et en fait, dans les prépas marathons, si on regarde bien, il y a des fluctuations en termes de kilométrage. On n'est pas sur une augmentation crescendo du kilométrage. C'est pas possible, ça. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser au corps la possibilité de récupérer. Et donc, la semaine qui suit un semi-marathon de prépa marathon, c'est typiquement une semaine dans laquelle il faut mettre un microcycle de récupération, donc avec un kilométrage moins important. Pour autant, et je dis bien pour autant, je pense que ça peut être une semaine vraiment intéressante dans laquelle on peut mettre de la charge en termes d'entraînement croisé. C'est-à-dire diminuer le volume d'entraînement en athlée, en course, parce que, bah, on l'a dit, hein, la course, ça fait des chocs. Donc, ça fait plus de micro-traumatismes. Mais pour autant, si on veut continuer à travailler la puissance aérobie, la capacité aérobie, les fonctions aérobies en général, on peut le faire en natation et sur le vélo, par exemple, qui sont deux sports portés, qui sont très intéressants et très complémentaires. La natation, ça présente vraiment l'avantage, de plein d'avantages. Le premier, c'est que l'eau va drainer et donc va créer une sorte de massage lymphatique et circulatoire et veineux avec l'augmentation de l'effort, qui va vraiment favoriser la récupération. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième avantage, c'est que du coup, on va pas solliciter les muscles de la chaîne postérieure, mais c'est aussi un élément de contrainte. Ne pas solliciter les muscles, c'est ne pas apporter trop d'oxygène à ces muscles. Donc, la récupération, elle sera moins importante en natation qu'elle ne sera sur le vélo où les chaînes musculaires sollicitées sont les mêmes qu'en course à pied. Donc, on va apporter de l'oxygène aux muscles qui auront été lésés directement. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que les deux sont intéressants. Je pense que faire du vélo le lendemain d'une compète, c'est bien. Et utiliser la natation en plus, en complément dans la semaine, pour les plus voraces d'entre vous qui aiment avoir de l'activité physique. C'est toujours cette logique-là, hein, c'est toujours cette problématique. Est-ce qu'on fait du sport pour être bien? Est-ce qu'on fait du sport parce qu'on en a besoin? Ou est-ce qu'on fait du sport pour respecter un plan? Bah, clairement, si on veut respecter un plan et être ultra performant sur du marathon, moi, je pense que la semaine qui suit, on peut faire une récup sur le vélo le lundi, très bien. Et derrière, on se contente de 3-4 séances très qualitatives. Alors, c'est pour une personne qui ferait 5 séances ou 6 séances. Hein,
ouais.
Et de 2 à 3 séances pour une personne qui ferait 4 séances. Donc, diminuer la charge d'entraînement en termes de nombre de séances et aussi en termes de kilométrage et d'intensité surtout. Voilà, on peut commencer à remettre de l'intensité à partir du jeudi ou du vendredi. Quand on n'aura plus de courbatures, on dit que les courbatures... Le paroxysme des courbatures, c'est 48 heures après. Alors moi, pour le coup, sur moi, c'est hallucinant. Moi, j'ai des courbatures qui arrivent, mais vraiment 48 heures après l'effort. C'est vraiment hallucinant, je le vois à l'heure près, quoi. Et ça me fait toujours rire, en fait. C'est assez dingue, cette donnée. Alors, ça change, hein. Selon nous, on n'a pas tous les mêmes ressentis et les mêmes choses, mais voilà. Et donc, du coup, à partir de vraiment du jeudi, on va pouvoir redevenir un petit peu opérationnel et on va pouvoir recharger. Sachant que le dimanche qui va suivre, il y a très grande chance qu'il y ait une nouvelle sortie longue qui va arriver.
Oui.
Parce que c'est ça aussi dont il faut qu'on parle. C'est qu'est-ce qu'on fait aussi une fois qu'on a récupéré? Bah, en fait, une fois qu'il y aura eu cette semaine un peu plus cool, on va repartir sur le dernier mésocycle ou microcycle, on appelle ça comme on veut, mais on va repartir sur la dernière période de charge où on va remettre beaucoup de volume, beaucoup d'intensité et ça sera la dernière période de charge. En fait, c'est là où on va avoir les séances les plus longues, les plus intenses et les plus proches de l'allure marathon où il y aura le plus de kilomètres passés à l'allure marathon,
ouais.
C'est ça que je voulais dire, proche de l'allure marathon, soit plus rapide, soit à l'allure, quoi. Et donc, bah, on voit bien l'importance de récupérer tout de suite après le semi, parce que si on récupère pas, bah, derrière, on pourra pas repartir sur ces séances-là. Et puis aussi remettre du volume, ça veut dire remettre des sorties longues. Et donc, dans ce cycle qui va suivre, il y aura notamment la dernière sortie la plus longue. Alors là, qui dépend finalement un petit peu de chacun. Moi, j'aime bien raisonner en termes de temps, mais malgré tout, ce temps d'effort, il est aussi fluctuant en fonction de la vitesse à laquelle on va. Moi, je trouve que il y a des plans qui vont jusqu'à 3 heures.
Ouais.
On est sorti jusqu'à 3 heures. Moi, je suis pas archi fan à partir du moment où on fait un marathon. En fait, moi, je trouve que la dernière sortie, il faut qu'elle soit globalement à 75% du temps total passé dans le marathon. Donc, voilà, moi, par exemple, qui fais un marathon, qui vise le marathon en 3h22, je crois que je monte pas au-delà de 2h30 ou 2h45. Ah si, j'ai dû faire 3h une fois. J'ai peut-être dû faire 3h. Je suis en train de me dire, je réfléchis là en même temps, mais bon. En tout cas, je trouve qu'avoir un volume de 75 à 80% du temps total passé, c'est pas mal. Parce que raisonner en termes de kilomètres, bah, ça veut pas dire grand chose. Parce que finalement, on peut passer beaucoup de temps. Enfin, on peut aussi avoir une sortie longue, pas forcément aller en marathon. Donc, on peut passer plus de temps à courir que, t'as compris?
J'ai compris le truc, parce que c'est vrai qu'il y avait toujours la question entre... Puis au club, il y avait des coureurs qui couraient, qui disaient, moi, il faut que je fasse 30 km les deux week-ends avant le marathon, etc. Mais qui, pour eux, ça se faisait en 2 heures, tu vois. Et moi, 30 km, ça se faisait en 3 heures. Donc, il y a toujours cet écart-là qui est comme ça. C'est vrai qu'en plus, il y a un truc, et il faut le dire, parce que le dernier cycle, donc il y a... si on fait le semi-marathon 1 mois avant le marathon, donc on a cette semaine, il faut récupérer du semi-marathon, on remet de la charge avec une grosse sortie.
Pendant deux semaines.
Il y a au moins 2 semaines avec des grosses sorties longues.
En fait, il y a 3 dimanches. Il y a 2 semaines et 3 dimanches,
voilà,
en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a 3 sorties longues qui vont se succéder, qui vont augmenter progressivement. Ouais, en fait, non, je faisais 30 km. Hein, je faisais pas 3 heures. Je faisais 2h30, 30 km. Pour un marathon, 3h20, à peu près, en objectif. Donc voilà, ça peut donner un ordre d'idée. Et effectivement, en fait, il y a 3 dimanches. Pourquoi ? Bah, il y a le dimanche de la semaine de récup. Il y a les 2 autres dimanches et après, on relâche. Sachant même qu'il y a 2 dimanches, en fait. Parce que le troisième, déjà, c'est une sortie qui est atténuée. C'est une sortie, moi, je dis, il ne faut pas dépasser les 1h30, 1h45 en sortie longue sur le dernier dimanche, quoi. Mmh. Et la dernière semaine, c'est vraiment une semaine ultra cool dans laquelle il y a très peu de volume. En fait, presque la totalité du volume du kilométrage de la semaine se fait sur le marathon, quoi.
Tiens, j'ai une question subsidiaire. Si tu te sens pas bien après ton semi-marathon et que tu as des... j'en ai vu qui ont été malades, par exemple, parce que ça épuise. Hein.
Y en a, malade d'un point de vue immuno
Oui, c'est-à-dire compris. Il y en a qui ont, par exemple, malades rhume parce qu'ils ont pris un petit virus, plus faible, etc. Certains fatigués qui n'ont pas pu faire les séances, etc. Ou tu vois les séances qui sont en train de disparaître en disant oh, « c'était la semaine où j'avais des séances, elles disparaissent ». Et il faut les rassurer, on ne perd pas tout si on rate cette semaine-là, quoi.
Alors, pourquoi on est malade, déjà ? C'est peut-être une question. Pourquoi on est malade dans une période de charge ? Ben, en fait, l'entraînement crée de la contrainte physiologique. Et en fait, l'organisme, il y a un moment donné où il n'arrive plus à suffisamment combattre des potentiels virus, bactéries et ce genre de choses. Donc en fait, on affaiblit l'organisme. L'entraînement affaiblit l'organisme. C'est François Carré, je crois, de mémoire, qui dit que le sport est le seul moyen de rendre un individu sain malade.
C'est Denis Richer qui l'a dit ça. Qui disait que c'était le meilleur moyen pour rendre malade quelqu'un en pleine santé.
Voilà. Donc on comprend bien les effets de l'entraînement sur la physiologie de l'effort. Qu'est-ce qu'on comprend aussi de manière subsidiaire, c'est que en fait le corps il choisit. Hein. Il n'est pas débile, enfin je le dis toujours, mais on lui impose une charge d'entraînement, il faut la suivre, donc il la suit. Et donc il se dit, je vais mettre ce que je peux. Et réparer du tissu musculaire, ça demande de l'énergie et ça demande justement d'avoir un petit peu de ressources. Donc on peut tomber malade pour ces raisons. Au-delà de ça, qu'on soit malade, qu'on soit blessé, qu'on soit tout ce qu'on veut. Effectivement, cette période-là, que ça soit un tout petit peu avant le marathon, donc un mois et demi avant jusqu'à 15 jours, c'est vraiment la plus grosse charge et c'est vraiment la période pendant laquelle on prend le plus de risques de pas se blesser, mais effectivement de pas être bien pour plein de raisons, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est effectivement la période pendant laquelle il y a globalement deux attitudes. Soit on fait les séances coûte que coûte, comme je disais tout à l'heure, on applique le plan et on pense qu'on est un warrior et on applique le plan. Soit, en fait, on arrive à avoir cette capacité à réfléchir, à prendre du recul et à se dire, OK, concrètement, dans quel état je suis et est-ce que c'est suffisamment pertinent pour moi de faire la séance ? Donc, je l'ai déjà dit, hein, mais il y a plusieurs approches. Donc, ce qui est compliqué parfois, c'est d'avoir la différence entre un ressenti et la réalité physiologique. Alors, pour avoir déjà un petit peu d'épices par rapport à ça, on peut tester sa variabilité cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle témoigne en fait d'un stress physiologique. D'ailleurs, on mesure le stress avec la variabilité cardiaque. Donc, moi, je vous conseille pas de prendre les stats de stress sur la montre, comme le fait Garmin par exemple, parce que en fait, elle regarde la variabilité cardiaque. Mais si par exemple on fait du cracking et qu'on va marcher toutes les 20 minutes, il croit qu'on fait de la variabilité cardiaque, alors que pas du tout. C'est juste qu'on va marcher. Donc, tester sa variabilité de fréquence cardiaque, ça veut dire le matin au réveil prendre le pouls au repos déjà et comparer ce pouls. Alors, faut se connaître, hein, faut bien se connaître bien sûr, mais faut comparer ce pouls par rapport à un pouls habituel avant une période d'entraînement. Et clairement, on sait que le surentraînement va induire une légère augmentation de la fréquence cardiaque. Donc d'emblée, ça c'est un indicateur qui fait que on est peut-être surentraîné, on est peut-être dans une période de surcharge. Et donc attention, c'est un premier warning. Un deuxième point, c'est reprendre sa fréquence cardiaque en journée dans un temps calme aussi, et de comparer avec un autre temps calme. Idem, si on retrouve des fréquences cardiaques un peu élevées, c'est qu'il faut se poser des questions, il y a de grandes chances. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un élément qui est très intéressant pour aller voir si oui, si physiologiquement oui ou non, on est vraiment fatigué ou si c'est juste un ressenti comme ça tacite. Autre chose, il y a souvent des modulations de l'appétit. Alors on peut voir deux types de comportements vis-à-vis de l'appétit. Soit on va avoir moins faim, on va moins manger, et ça c'est un indicateur aussi de surentraînement. Soit à l'inverse, en fait, on va compenser une forme de fatigue par l'alimentation, en pensant qu'on est plus fatigué, donc on va plus manger que d'habitude. Donc si vous avez des pulsions sucrées, des compulsions alimentaires avec sans doute de la fatigue, sans doute du stress, et donc sans doute un indicateur que sur le plan physiologique, vous n'êtes pas au top. Donc dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a deux données, il y a des données objectives, physiologiques, et des données plus psychologiques. Et donc là, bah, il y a un peu tous les warnings qui sont en faveur du fait que, a priori, la séance à réaliser, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et donc, il y a deux solutions. Soit on ne la fait pas, soit on l'adapte. Moi, je dis que quand on commence à tomber dans ce processus-là, être dans une logique d'adaptation, c'est repousser pour mieux sauter. Et c'est finalement prendre le risque de simplement repousser une échéance, mais de derrière devoir la subir pas longtemps après, quoi. Donc moi je suis plutôt pour au début essayer de supprimer une séance, faire sauter une séance. Après tout dépend de la séance, parce que si c'est une séance vraiment à allure spécifique, allure marathon, eh bien l'idée ça peut être simplement de la décaler dans la semaine à la place d'une autre séance, parce que ça reste les séances les plus importantes à l'allure marathon, parce que plus on avance dans le plan, ça c'est autre chose, c'est important, plus on avance dans le temps et plus on se rapproche du marathon, plus le développement des ressources, en fait, il est moins important que la gestion de l'effort. Je m'explique. Développer les ressources, on le fait essentiellement beaucoup au début parce qu'on va vraiment chercher à développer notre potentiel, etc. Mais sur la fin, en fait, le but, c'est davantage d'intégrer une allure. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, c'est pourquoi on court à allure régulière sur marathon. D'ailleurs, c'est une bonne question. En fait, c'est la thermogenèse de l'activité. En fait, il y a une formule qui dit que la dépense énergétique croît au carré de la vitesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, toute accélération, l'accélération, c'est la vitesse au carré, hein, donc c'est une exponentielle. Donc toute accélération va entraîner en fait une exponentielle en termes de dépenses énergétiques. Donc en fait, pour gérer son potentiel énergétique, il vaut mieux conserver une vitesse que d'en créer une. C'est ça la base sur laquelle on s'est fondé pendant des années, en fond et en demi-fond. Bon, je reviendrai plus tard, il y a d'autres théories maintenant qui commencent à se développer là-dessus, mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Globalement, aujourd'hui, on fait des plans pour qu'on ait une allure et qu'on maintienne une allure. On pourra en discuter de cette histoire de variabilité de l'allure plus tard. Du coup, quel est l'objectif de la deuxième partie du plan ? Bah, ça va être d'intégrer l'allure, d'avoir des repères sur cette allure et d'être capable de bien la gérer en termes de est-ce que je suis à la bonne allure ou pas et quels sont les repères qui témoignent du fait que je suis à la bonne allure ou pas. Et donc, on voit bien que sur la deuxième partie du plan, bah, ce qui est presque le plus important, c'est ça. C'est de continuer à intégrer des repères, de continuer à courir à l'allure marathon pour pouvoir intégrer cette allure et croiser des repères extérieurs avec des repères intérieurs. Voilà. Et donc, moi, le conseil que je donne, c'est que dans la deuxième partie du plan, si séance il y a à faire, entre guillemets, sauter ou à déplacer, ben, il vaut mieux prendre une séance bien à allure spécifique ou une séance longue, faire ce type de séance-là, ce type de sortie-là, plutôt que de faire une sortie à VMA ou ouais. De faire une sortie au seuil ou de faire des sorties à d'autres types d'allures qui ont vocation à développer les ressources. Et donc, en final, bon, après, à 3 semaines, il n'y a plus grande marge de développement des ressources. Hein, à 3 semaines du marathon, il faut être lucide. Hein. Le tout petit truc qu'on va développer, le rapport bénéfice-risque-contrainte, il est plus en faveur potentiellement là, de la blessure et de l'arrêt du plan. Quoi.
Ouais. Surtout, je vais te donner une stat, une anecdote. Vas-y. Quand je me suis blessé sur la préparation de mon premier marathon, je suis allé voir Thomas Laure Blanchet parce que j'arrivais plus à marcher. Et il me dit « Ah, vous êtes à 15 jours d'un marathon, vous. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit bon, « c'est à chaque fois que quelqu'un prépare un marathon, c'est dans justement là, juste avant la baisse, on rentre dans l'affûtage, juste avant de rentrer dans l'affûtage, où il y a la dernière grosse séance, le dernier gros week-end, et c'est pas raté, hein, j'ai un gros week-end. » Il m'a dit c'est à ce moment-là que le stress mécanique, la fatigue, tout ça rentre en jeu. Il me dit en général, je les récupère là. C'est le premier contact que j'ai eu avec lui. Et quand il m'a dit ça, il m'a fait une petite courbe, un petit schéma. Il m'a dit voilà, c'est là. Il me dit je vous récupère tous à ce niveau-là. Et c'est logique.
Et alors, pourquoi 15 jours ? Mais ça, c'est déjà trop tard en fait. Enfin, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est une sorte d'inertie en fait, d'hystérésie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus qui est en train de se mettre en place de blessure. Pour lequel, au début, on a plein de signes, mais on veut pas les voir, en fait. Bah c'est oui. Comme si on voulait pas les entendre, quoi. Et en fait, ça commence à un mois, là, cette période exactement dans laquelle on est en ce moment. Et si on n'écoute pas ces petits signaux-là, on a effectivement tous les risques d'arriver 15 jours plus tard totalement blessé, totalement HS. Et effectivement, tu as tout à fait raison. C'est très intéressant de parler de ces 15 jours. Et ces 15 jours-là, après, c'est trop tard. C'est foutu. Parce que comme tu dis, le stress mécanique derrière, il trop important, il n'y a plus de possibilité de récupérer quoi.
On avait parlé avec M. Ton kiné d'ailleurs, il avait dit une phrase, il avait dit de toute façon quand on a mal c'est que le corps hurle, mais ça fait un bout de temps qu'il a mal, mais il y a un moment donné il dit juste bon ce coup là tu vas t'arrêter, donc je vais te faire un gros truc qui va vraiment te faire mal, ouais, tu t'arrêtes et on repart, on va repartir sur autre chose. Et ça c'était l'image qu'il avait donnée, mais après on peut avoir plein de signes, plein de symboles etc. sur là-dessus, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne image, je veux dire quand la douleur devient vraiment insupportable, qu'il a la blessure, c'est qu'en général, comme tu le dis, avant, déjà, il y avait des trucs qu'on devait écouter et que, ben, on se dit non, mais ça va passer, j'ai mon plan, je dois faire ça, ça a été fait par un entraîneur, de toute façon, ça va passer. Bon, ben voilà, après, moi, je sais que par expérience, non, des fois, ça passe pas.
Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, il faut faire le travail en amont.
Bon, ben donc, écoute,
bon, on n'a pas parlé. Ouais, après, bon, un autre truc hyper important. Hein, on a partagé, enfin, j'ai partagé une vidéo sur il y a pas longtemps sur Instagram en lien avec Athlète Nutrition. On parle de l'hydratation. Moi, ça me paraît être un conseil hyper important. Hein, j'explique pourquoi dans la vidéo. Donc, on vous renvoie à ça. Mais clairement, bien s'hydrater. Consommer suffisamment de micronutriments pour la récupération, des minéraux aussi. Tout ça, c'est important. Et puis, on peut maximiser sa récupération avec l'alimentation et le sommeil, hein, et les micro-siestes. Mais on pourra peut-être faire un épisode complet de la Minute Perf.
Ouais, on fera un épisode complet de la Minute Perf dessus. Je rappelle juste une citation de Ken Jornet. Quand on lui demande comment il récupère après une course, il dit « je dors et je mange ».
C'est ça.
Voilà. C'est la grande règle. Et il boit. Enfin, mais quand il dit « dors, je mange, je bois », et c'est la grande règle, etc. Il vous sort pas des trucs pistolets, à massage, rouleau, quoi que ce soit dans son truc. Il le dit pas. Il dit vraiment se reposer, manger, refaire les ressources, etc. pour pouvoir enchaîner derrière. Bon, voilà, c'est la logique, hein. Il y a beau être Kylian Jornet, il y a le même corps finalement, il y a un corps qui fonctionne à peu près, et tout le monde, on a le besoin de recharger tout ça. Je trouve que c'était une question qui était vraiment intéressante, c'est vrai. C'était important de l'aborder parce qu'il y en a plein qui sont... Alors, il y en a pour qui c'est déjà passé, il y en a qui vont être dans cette temps de préparation là dans les semaines qui viennent parce que les marathons vont s'étaler sur tout le printemps. Donc c'était important de l'aborder. C'est vrai que moi j'avais vu plein de messages et tout là-dessus, je disais il faut quand même qu'on en parle parce que c'était quand même important. Qu'est-ce que je veux dire, n'a rien à rajouter sur cette question, donc le point voilà.
Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on a fait le tour de la question? Tu vois d'autres choses?
Non, moi je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que c'est important de rappeler cette histoire d'objectif qu'on se donne sur le semi. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur semi avant le marathon de préparation, parce qu'il y en a qui vont être dans le semi, je pense à ceux qui vont courir à Vichy, tu vois, par exemple, ce week-end, peut-être peuvent être tentés en disant tiens, je vais pousser un peu plus, je pourrais. Et j'ai fait une réponse dans la Saint-Denis Club en disant il faut pas se tromper d'objectif. Et on revient sur l'histoire de la performance.
C'est une bonne phrase, il faut pas se tromper d'objectif, j'aime bien. Ouais.
Savoir si l'objectif c'est préparer le marathon, si l'objectif c'est battre ton record sur semi. C'est pas le même objectif, c'est pas la même chose.
Ou même se faire plaisir, ou continuer à faire de l'activité, ou tout ça. Hein. C'est ce qu'on expliquait dans l'épisode avec Nathalie Simon. Hein. Est-ce qu'on est là pour se faire plaisir, ou est-ce qu'on est là pour vraiment tout maximiser au service d'un objectif, comme tu dis, elle est très bien cette phrase. Quand on fait un semi dans le cadre d'une prépa marathon, on le fait pour préparer un marathon, quoi. Et on le fait pas pour faire un semi. Et après, ça n'empêche pas de refaire un semi après. Je pense qu'on peut vraiment surfer sur les ressources développées pendant un plan marathon. Hein. J'en suis un peu l'exemple quand on a rigolé tous les deux de mon 10 km à fond là pour le marathon de Paris. Je pense que j'ai surfé sur ce que j'avais développé à l'automne pour ma prépa marathon, d'ailleurs qui n'a pas abouti. Donc derrière, on peut très vite enchaîner sur une autre prépa, mais ça serait...
Eh bien, on fera un épisode de la Minute Perf sur le sujet, de dire qu'est-ce qu'on fait après le marathon. Parce que moi, le blues du marathon, je l'avais pris en pleine gueule et je m'étais fait écraser par ce truc-là pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, et qu'est-ce qu'on fait des ressources qu'on a développées pendant cette période-là et comment on peut les réutiliser derrière. Je pense que c'est un grand débat qu'il y a eu au club. Le président, il m'avait dit... Oh là là, après un marathon, j'ai toujours du mal à remettre de la vitesse, on est plan, on a cette fameuse allure marathon qui est tellement installée en nous que ça devient facile. Si, mais attends, il y a 60 ans.
Moi, je n'ai jamais été aussi vite qu'après un marathon.
Et voilà, et c'est un débat, c'est justement de dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de ces ressources qu'on a développées, comment on peut les retrouver et tout. Mais en fait, c'est des plan au sens où tu t'habitues à courir en allure, à cette fameuse allure que tu as rentrée, tu as les ressources pour aller plus vite. Il dit juste, il faut faire l'effort de dire tiens, je vais pouvoir faire
des
choses.
Non, mais j'entends,
etc.
Après, quand t'es entre 4:30 et 5 minutes au kill, déjà tu traces hein, quand même, hein, ça va vite, hein, c'est des allures qui vont vite. Je dis pas que ça va vite, pas longtemps, mais ça reste des allures rapides quand même. Quoi. Enfin, oui, ça reste des allures lentes, on est sur 42 km, j'entends, bien sûr. Mais
Ça dépend à quelle allure. Ça dépend. Voilà. Bref, c'est tout un débat. Bah, tiens, écoute, tu sais, on fera un débat dessus et tout. Écoute, Laure, je te
remercie.
T'aurais
pas envie
beaucoup.
De faire des battles, toi, avec moi, par exemple.
Si, si, mais on va faire des battles et tout. Tu vois, tac, 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 tac. En tout cas, tu sais quoi, on va souhaiter un bon semi à ceux qui vont faire un semi bientôt. Si t'en connais, tu leur passes le bonjour.
Bah, toi et moi, non ? C'est pas ça ?
Oui, et puis j'ai dit
alors,
à
nous,
ceux qui sont.
On a un petit défi. T'as annoncé le défi ou pas, là ?
Non, je l'ai pas annoncé, mais je dis quand même, je peux le dire, ceux qui sont à Vichy le jour du semi-marathon, n'hésitez pas à venir faire un coucou si vous voyez ma petite tête, etc.
Et moi aussi.
Voilà. Et puis, j'ai dit aussi sur Instagram, j'ai prévenu sur Instagram que j'étais là, je sais qu'il y a des personnes qui sont là, etc. Donc, n'hésitez pas à surveiller un petit peu aussi. Hein, voilà. Et puis, non, je l'ai pas annoncé le défi. Tu veux l'annoncer le défi ?
Vas-y.
Non, bah vas-y, annonce-le. C'est toi qui as eu l'idée. Alors, c'est une idée à la con. Alors, c'est ton défi.
Non, on est sur une idée à la con, mais qui est quand même intéressante. L'idée, c'est que Bertrand va venir à Vichy pour enregistrer un épisode de la Minute Perf. Mm. Et on s'est dit que, bah, comme c'était deux jours avant le semi de Vichy, on allait faire un marathon en deux fois. Donc, vendredi, dimanche, on fait un marathon en deux fois. Voilà.
Voilà. Donc, si jamais la semaine d'après il n'y a plus d'épisode de Kilomètre 42, ou s'il n'y a plus
c'est
que l'or,
c'est
que l'on aura tué.
Ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça.
Voilà. Mais l'intéressant, après, on fera un bilan, on dira comment est-ce qu'on récupère entre le vendredi et le dimanche, parce qu'il y aura le jour du milieu, là, etc. Et comment ça s'est, ça sera une belle expérience. Franchement, je dis, moi, ça me fait un peu peur, c'est un peu une idée à la con. Mais, on verra exactement comment récupérer, on pourra en parler, on verra la fameuse récupération, sachant que moi, je sais que je vais courir au milieu, parce que je veux pas casser ma série. Comment on fait pour récupérer ? Ça sera tout un débat. Bon, écoute, sur ce, on va conclure. On a fait une BRL, je pense que pratique, tu vois, vraiment. Tout le monde a des conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, à envoyer les questions. Dans l'Amsterdam Running Club, il y a des questions tous les vendredis. Je réponds, il y a souvent des FAQ aussi sur mon compte Instagram. Vous pouvez envoyer des questions, j'en reçois je ne sais pas combien, on fait des tris. Et puis, on se retrouve... Laure pour la minute perf, hein, déjà.
Dans pas longtemps.
La semaine prochaine, je le dis pour ceux qui n'écouteraient pas, surveillez bien le flux qui va, l'épisode de mercredi, je vous garantis, c'est canon. Franchement, je le dis, je dis ça tous les vendredis, tout le temps, mais c'est un super
épisode. Invité de dingue.
Ouais, il y a un super invité, puis qui est ouvert sur plein de sujets. On a parlé vraiment des sujets, mais même j'étais surpris, même d'ailleurs, des sujets. Et justement, ça va vous intéresser, parce que sur la partie marathon, justement, eh ben, c'est un athlète qui se lance dans le marathon. Malgré toute sa longue carrière, en fait, il en a très peu derrière lui, mais qui se lance, et on en a parlé aussi un petit peu de ça. Et on va voir que c'est pas si facile que ça, même pour un athlète de très haut niveau, d'aborder le marathon. Et qu'on peut se planter aussi. Et donc, ça, je pense, ça remet un petit peu l'église au milieu du village, des fois, de temps en temps, de se dire que ça peut arriver pour plein de raisons. Bref.
Yes.
Merci beaucoup, Laure.
Ben de rien, avec grand plaisir. Tu me ravites quand tu veux sur le conseil.
Ça marche. Allez, je te renvoie l'invitation, je t'envoie un petit papier. Puis, tac, c'est parti. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Les épisodes toute la semaine prochaine. Ciao, ciao.
À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.